Benvenguts de Boulégan, l'émission des musiques occitanes et provençales. Ce soir, alors, nous recevons François-Marie et Hervé Béranguier, des Farandoulay Recestian, un groupe traditionnel d'Aix-en-Provence. Est-ce qu'on peut dire ça? Bon. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va un peu parler de l'actualité, un peu de votre groupe, de l'histoire des Farandoulay Recestian, qui existe depuis 50 ans bientôt, et voir un peu qu'est-ce qu'il en sort de tout ça, et parler de la musique folklorique, on peut dire,
oui.
D'Aix-en-Provence et de son ampleur dans la région. Dans l'histoire, éventuellement, on va un peu parler de tout ça. Vous êtes bien sur le 88.1, vous pouvez nous écouter sur le site internet www.radiozinzinex.org. Et on est avec messieurs François-Marie et Hervé Béranguier, donc des Farandoulay Recestian. Une deuxième fois bienvenue dans le studio de Radio Zinzine.
Merci de nous accueillir.
Je t'en prie. Voilà, alors qu'est-ce que vous allez nous dire un peu sur cette actualité, enfin sur le groupe en tout cas, qu'est-ce que c'est les Farandoulay?
Alors, les Farandoulay Recestian, donc les Farandouleurs avec soi, c'est un groupe folklorique d'Aix-en-Provence qui dure depuis 50 ans. Quand même. On a fêté nos 50 ans il y a un an, l'été dernier, à Aix-en-Provence. Donc son but c'est promouvoir la culture provençale sous toutes ses formes, danse, essentiellement musique, que ce soit les instruments, le chant, également le folklore du jeune âge, c'est-à-dire tout ce qui se faisait pour les enfants, les vieux métiers, et un peu le parler, bien évidemment, des cours de langue et par le biais aussi de la chorale qui existe. Donc voilà, donc depuis 50 ans, on essaye de faire perdurer une certaine tradition via un bon nombre d'événements dans la ville et en dehors.
D'accord, voilà. Donc c'est vous qui suivez, qui jouez par exemple pour les feux de la Saint-Jean.
Voilà, tout à fait, tous les 23 juin depuis 20 ans, je crois, voilà. Si je ne dis pas de bêtises.
À la Rotonde.
À la Rotonde, tout à fait, là, ou 25 ans.
25 ans,
on s'embrouille avec les années. Et donc oui, tous les 23 juin, donc c'est facile à retenir, sur la Rotonde, défilé, mais il y a... Nous organisons, mais on fait contribuer toutes les associations un peu de la ville, telles que l'Harmonie Municipale, le Speedy Club pour ce qui est coureurs qui amènent la flamme. Et ça se clôture donc à la Rotonde, un spectacle folklorique. Et puis, bien évidemment, le feu et les danses autour du feu, comme le veut la tradition, mais un peu plus moderne, avec un balletti, etc. Et tous les ans, c'est la même chose.
Alors vous, succès, quoi, vous considérez comme un groupe traditionnel donc, provençal,
voilà.
De musique provençale. Donc, vous êtes composé de combien de musiciens?
Alors, les musiciens, ça varie. On peut compter un peu moins de... entre 5 et 10 musiciens, essentiellement galoub et tambourin. Et en quelques percussions, certains en différents flûtés, donc on est assez varié dans ce domaine-là. Et après, il y a une chorale également au niveau musique, d'une dizaine de choristes, ou non, une quinzaine peut-être même.
Ça dépend des années. 15, c'est pas un nombre très important, mais ce qui compte, c'est de faire entendre aux gens de certains chants traditionnels. Par exemple, Saint-Jean Loumeixounier, un air traditionnel. Qu'on chante pour, c'est le patron des moissons, et donc c'est un patron de circonstances qui avait un chant traditionnel que l'on chante chaque année.
D'accord.
Il y a également Kelly Montagne, qui est un chant du sud-ouest. Alors, nous chantons en provençal parce que nous connaissons le provençal, non pas le languedocien, disons.
Oui, oui.
Bien sûr, mais comme la flamme vient de là-bas, nous chantons l'air de ce pays qui est attribué à Gaston Phébus, bien qu'on n'en soit pas sûr, mais c'est un chant donc qui relie un peu tout le pays d'Oc ou Occitanie. Les termes, ça ne nous gêne pas.
Oui. Voilà.
Pays d'Oc, Occitanie, c'est pour nous l'ensemble culturel qui nous intéresse, bien sûr à partir de la Provence. Nous défendons l'idéal provençal, mais nous avons un sentiment plus large.
Ben, aujourd'hui, je pense que pour pouvoir se développer d'un point de vue contemporain, pouvoir prendre la Provence en tant que partie prenante de l'Occitanie, finalement c'est un même combat, donc c'est aussi un besoin de fédérer toutes ces régions qui parlent. C'est normal, vous prenez une chanson donc, qui est fédératrice plutôt.
Finalement, oui, la chanson des Messieurs Montagne, c'est une chanson qui est fédératrice, que vous connaissez peut-être. À quelle montagne qui est en auto, etc.
Je ne pourrais pas la chanter, mais je connais très bien l'air. Voilà. J'étais bercé dans les chants de Noël de Nicolas Saboli.
Et cela fait partie donc du devoir et de la volonté de transmission, parce qu'on transmet surtout une culture, on ne fait pas que du spectacle ou de la démonstration, c'est une transmission à des gens qui sont d'ici, qui malheureusement ne sont plus baignés, de moins en moins du moins, parce que folklorique est un peu péjoratif, on peut parler de traditionnel plutôt.
Voilà. C'est plutôt l'identité provençale qui est une langue pour nous, pas simplement un sous-dialecte ou un dialecte, c'est une langue dans l'ensemble de la langue de...
Bien sûr, c'est un dialecte, bon, une langue qui regroupe énormément de dialectes. Mais alors, du coup, l'Aïfarandoulaï, donc c'est un groupe folklorique. Par rapport à cette question du folklore et de cette vision du folklore que les gens ont, donc est-ce que vous voyez le folklore comme quelque chose est-ce que c'est quelque chose de réduit par rapport à quelque chose qui était plus vivant avant et qui donnait un peu plus d'ampleur par rapport à l'évolution de cette chose-là, en fait?
Alors, le folklore, ce qui est étonnant, c'est que nous avons été accueillis, alors pour vous expliquer un peu le tout, par un groupe breton en Bretagne, il y a récemment, dans le cadre d'un échange culturel. Et eux, le mot folklore, c'est quelque chose qui leur siffle aux oreilles, parce qu'ils n'ont pas cette notion. Eux, ils ont, comme je disais, cette notion de tradition. Et ils la font évoluer d'une manière très traditionnelle et après moderne. Nous, on a une vocation, malheureusement, on va dire, un peu commerciale, parce que le folklore en Provence, c'est un peu touristique. Et c'est réduit à une peau de chagrin, dans le sens où on nous voit vraiment comme une vitrine, simplement, et on ne va pas voir le fond de commerce, c'est dommage. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on veut la faire évoluer, mais on a, malgré notre richesse, on n'a pas les mêmes moyens que d'autres ont dans d'autres régions, et je trouve que l'image stagne un peu. Je prends une anecdote peut-être un peu bête pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, mais quand vous êtes en costume, donc folklorique pour chez nous, aixois, donc on passe pas inaperçu dans la rue quand même, quand je prends faire la bénédiction des calissons à la rentrée, où il y a encore un peu de touristes et beaucoup d'aixois.
Je pense que le touriste quand même sait de quoi il s'agit, puisqu'on lui a déjà donné une image.
Le problème, c'est qu'il a une image nationale, c'est-à-dire on nous dit « vous êtes breton ». Et non, on est aixois.
Et oui, on est provençaux tout simplement.
Voilà, on est provençaux, mais on nous confond avec un folklore qui a fait ses preuves comme les bretons, par exemple. On nous dit, vous êtes breton, vous êtes bretonne. Ben non, nous sommes provençaux.
Alors, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre le côté folklorique de la chose, vouloir défendre quelque chose de folklorique, c'est-à-dire de traditionnel avec tous les attributs qu'on avait pour pouvoir remontrer cette tradition-là et cette musique-là et tout ce qui tourne autour, et surtout la langue. Donc il y a cette chose-là, et après il y a le côté... Le provençal en lui-même, quoi. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, est-ce qu'il est représenté principalement par ça? En tout cas, Aix, il veut être représenté par ça.
Je crois que c'est Stravinsky qui disait que la tradition, une tradition, informe les gens, et donc il faut s'y tenir pour préparer autre chose plus loin. C'est ce qu'il a fait avec, pas mal d'opéras, enfin de musique, hein, c'est ça.
Bien sûr. Mais après, la tradition est quelque chose dans lequel on doit lire. On doit lire, on doit la voir, elle doit être vivante, forcément. Est-ce que c'est pour... puisque quand même, l'Aïfarandoulaï date de 50 ans, donc il y a tout un passé. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous considérez que vous faites la même chose depuis 50 ans? C'est une question.
Non, en fait, le problème, c'est qu'on renouvelle, bien évidemment. On ne fait pas toujours la même chose, même si, quand même, il est demandé de ceux qui connaissent plus ou moins bien toujours les mêmes choses, les mêmes danses, les mêmes musiques. On essaye de moderniser. Alors, je vais vous prendre deux exemples. Dans les danses, parce qu'on se dit de faire des danses d'antan, donc, mais on fait des chorégraphies, on crée des chorégraphies, des spectacles. Et je vais vous prendre un exemple, puisqu'on parlait des feux de la Saint-Jean qui ont eu lieu le 23 juin dernier, où il y a une animation folklorique par les farandos, bien évidemment, en première partie de soirée. Mmh. Il y a le feu et d'un coup, il y a un groupe de balletti qui a joué et fait danser bon nombre de personnes sur la rotonde. Ce groupe de balletti était composé, entre autres, de musiciens des farandos, de tambourinaires. Mmh. Mais il y avait également un batteur, un bassiste, une guitare, un piano, un accordéon diatonique, de la flûte irlandaise, de la flûte traversière, du galoubé, bref, et des flûtes et tout ce que vous voulez. Un mélange entre moderne et ancien. Les gens n'étaient pas costumés sur scène. Je faisais partie des musiciens. Mmh. Nous étions en civil ou comme n'importe quel groupe qui jouait sur une scène. Et on a pris des morceaux de ballet qui sont un peu un parallèle au folklore et on les a un peu modernisés. Mmh. Et bizarrement, d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un mélange qui prenait, la sauce prenait, et les gens étaient encore plus réactifs que d'autres années où cet aspect-là était un peu plus traditionnel. Et donc, j'y vois là une évolution, effectivement, où on se dit, après tout, nos instruments, ils s'accompagnent aussi bien avec des instruments modernes. Et comme on est basé sur une mélodie, une percussion, vous mettez une batterie, une basse qui accompagne, déjà, ça fait un grand changement, mais on garde ce ton provençal avec le galoubé.
Ah ben, ça, vous avez un nom quand même, les farandolais récestiens. On ne peut pas faire plus provençal que ça. C'est en provençal, donc pourquoi il y en a qui vont dire, je suppose, cestien, qu'est-ce que ça veut dire, farandolais, farandole, etc. Donc ça s'apparente à quelque chose du ballet, du bal. Les cestiens, après les cestiens, pourquoi cestiens? Ben cestiens, c'est l'exo en provençal. Donc ça, de suite, ça induit quand même une couleur et une tonalité. Alors, est-ce que vous ressentez un engouement pour ce que vous faites? Et comment vous considérez la diffusion de cette chose-là? Vous êtes basé sur un calendrier, le calendrier provençal, par exemple, en hiver, sur la bravade de Calendal.
On est sur deux tableaux. Il y a les fêtes qui sont renouvelées, qui sont annuelles, telles que donc les feux de la Saint-Jean, la bravade, la bénédiction des calissons à la rentrée, le souper calendal.
La bénédiction des calissons, c'est à quelle date?
Alors là, c'est le calissonnier qui gère ça. C'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre mi-septembre et fin septembre. Mais je n'ai pas de date exacte.
D'accord.
Parce que là, nous chapeautons un peu l'événement. Nous sommes... Comment dire, on participe activement, on va dire. On n'est pas organisateur, techniquement.
Et alors, cette tradition, elle vient d'où, en fait? Bénir les calissons.
Ah ben ça, c'était pour une peste. C'était lors d'une peste, je ne sais plus la date. Hein.
Oui.
Que, bon, comme l'ex avait été épargné, ils avaient fait le vœu de. Au lieu d'avoir des hosties, ils avaient fait des calissons. Les calices sont.
Voilà, les calices sont. Voilà. C'est le petit calice, en fait.
Donc, c'est un. Si vous voulez, un vœu. Comment on appelle ça
Un remerciement.
Un remerciement.
Pour avoir été épargné par la peste. Qui a donné naissance à des petits gâteaux, enfin.
Voilà,
les amandes.
Les calissons.
Dessus, il y a une hostie, d'ailleurs.
Oui, il y a une hostie. C'est fait avec l'hostie. Dessous l'hostie.
Dessous, c'est le dessous.
D'accord. Donc, en fait, alors, vous jouez principalement pour ces événements-là?
Alors, on joue, ça fait partie de nos dates fixes. Après, on peut être amené à animer énormément de. Comment dire, pour une mairie, pour un organisme, pour un particulier. Je vous prends un exemple, un mariage. Des fois, les mariés veulent avoir dans leur mariage un aspect traditionnel. Donc, la sortie de l'église, le saut de la barre, les cordelles.
Ou chez les gens même. On est allé une fois chez les gens.
Chez les gens, oui. Voilà, pour fêter des.
Dans un jardin.
Un jardin, pour fêter le 50e anniversaire d'un couple. Bon,
d'accord,
ça, c'est
d'accord.
Tout petit truc. Et après, il y a des fêtes de l'olivier, des fêtes votives, tout simplement.
Et ces gens-là, ils cherchent quoi en vous invitant finalement?
Les deux personnes.
Ce sont des Provençaux, oui.
Les deux personnes qui étaient d'un certain âge et dont on fêtait, je ne sais plus,
les 60 ans.
60 ans.
De mariage.
De mariage. Elles étaient très émues. Elles ont vu les danses, tout ça.
J'imagine.
Quand elles ont entendu le provençal, justement, la langue qui apparaissait tout d'un coup dans un chant. Et puis moi, je me suis mis à parler en provençal. Là, j'ai senti qu'il y avait une émotion. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et même dans l'assemblée de la famille, c'est là qu'on ressent quand même un intérêt pour notre culture qui reste, qui demeure, il faut le garder. Ça.
Même les petites fêtes votives ou les grandes fêtes votives, les marchés, les événements X ou Y, les échanges culturels, c'est à la demande de, comme je disais, par exemple, une mairie, un organisme, un service va demander qu'on vienne pour mettre une touche provençale et montrer aux gens, parce que des fois, c'est des événements où on attire pas forcément que les gens d'ici. Il y a des touristes, il y a des gens qui sont des horizons, qui ne connaissent pas notre culture, et ils veulent, je pense que c'est dans cet esprit-là, ils veulent montrer que la Provence, c'est ça aussi. Pas que les cigales,
exactement.
Que le truc sur le tissu avec toujours les mêmes motifs.
Et le costume, dans ce cas-là, il sert à montrer qu'on existe encore.
Ah bah oui,
là.
C'est pour ça que pouvoir diffuser encore ces choses-là, c'est bien. Mais après,
il faut aller plus loin, bien sûr.
Voilà,
mais là, on résiste.
Est-ce que vous résistez? Parce que c'est quand même très ancien. C'est un groupe qui est 1960. Donc, c'est né à une époque, dans un contexte, je suppose.
C'était pas bien le même. Oui.
C'était pas bien le même. Aujourd'hui, c'est encore là, mais c'est peut-être un peu récupéré par la mairie pour servir pour dire participer de ce folklore dans un cadre de tourisme aussi en été, en hiver. Bon, en hiver, c'est peut-être une chose différente. Alors, est-ce que vous jouez en concert parfois, dans des festivals, etc.
On organise soit nous-mêmes un concert qui est organisé depuis 2 ans à l'église, la petite église de Saint-Mitre, mais également on peut faire des spectacles. Je vous prends l'exemple du 50e anniversaire, et donc tous les 2 ans on fait le festival du folklore des provinces de France. Donc on accueille des groupes folklorique d'ailleurs, comme les Bretons, des Auvergnats, et on a organisé un spectacle en partenaire avec la mairie en haut du cours Mirabeau, avec une scène, une sono, et tout ce qu'il faut pour montrer aux gens ce que l'on fait. Après, c'est très varié, c'est très varié. On peut très bien jouer, danser, se montrer bêtement sur un trottoir d'un marché, ou d'un coup faire une chorégraphie sur une scène, dans une salle, pour un événement précis. Donc c'est très, très large notre champ d'action. Donc après, bien sûr, les personnes qui vont être sollicitées ne feront un boulot différent. C'est-à-dire, si on fait de la musique dans la rue, donc ça ne va pas être les mêmes musiques, les mêmes danses, les mêmes personnes. Si on fait un spectacle de scène, ça va être quelque chose qui va être 2 fois plus travaillé aux répétitions. Que ce soit les morceaux, que ce soit les danses. Donc, on divise un peu nos actions en deux choses.
Il faut remarquer aussi que les mairies nous récupèrent, c'est vrai. Partout, dans toute la province, les mairies se servent des groupes.
D'un côté, c'est bien.
Pour un panache. Oui. Mais d'un autre côté, en se servant des groupes, elles servent aussi, ce qu'elles s'en rendent moins compte, mais elles servent aussi les groupes. Parce que c'est là qu'on recrute également. Donc il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui viennent vers nous. Et ils passent du costume progressivement à d'autres choses, à la danse, au chant.
On est obligé de passer par le costume ou de passer par une danse?
On n'est pas obligé. Et si vous voulez, dans notre groupe folklorique, il y a bien évidemment, si on fait une représentation folklorique, il faut être costumé. Mais il y a des concerts. Là, je vous ai dit, les Farando ont poussé à faire un groupe Oxtanza qui animait le Balletti du 23 juin, où on était en partie des musiciens du groupe, mais nous n'étions pas costumés, puisque le principe étant de faire du Balletti, donc c'était pas du folklore. Je prends un autre exemple, je connais un groupe qui n'est plus avec les Farando, c'est les Tambourinae Sestian. Donc comme son nom l'indique, c'est un peu pareil.
Ah, les Tambourinae Sestian. Voilà, alors c'est pas les Farandoulaï.
C'est pas les Farandoulaï.
C'est pas les mêmes.
C'est un peu comme notre groupe, sauf qu'eux, ils sont axés très que musique. Que galoubet, tambourin et autres instruments dits de la Provence. D'accord. Et eux également ont un registre folklorique, bien évidemment, ou ont eu, du moins. Ils se sont associés au Farando, après ils se sont divisés, mais ils ont refait après de leur côté ce qu'ils pensaient être bon de faire. Et après, eux-mêmes, comme nous, ils ont pris une petite section et ils ont créé les tambourocs. Et là, pareil, ça prend plus trop un registre classique et folklorique, ça prend encore un nouveau registre très axé rock, très avec, comme je dis, du rock, c'est-à-dire une batterie, une guitare.
D'accord, une évolution.
Le son est complètement différent.
C'est là qu'on passe de ce qu'on appelait folklore, lentement on passe à quelque chose de différent, qui devient très moderne, qui régénère la culture provençale.
Et oui, ben sur ce,
Occitane, comme vous voulez.
Oui, Occitane.
Qui la régénère quand même.
Ouais. Ben, sur ce, voilà, si on parle de musique, on va passer un petit morceau. Alors, tu m'as parlé de Herz de la Fesse de Die, où c'est un morceau que vous inspirez souvent.
Alors, c'est un morceau qu'on joue parce que, il est vrai, cette année, on a eu le thème du carnaval provençal, donc les Jeux de la Fête de Dieu, qui sont d'Aix-en-Provence. Donc on a fait plusieurs spectacles en Bretagne, en Provence, sur cette, sur ces airs-là, ouais. Puisque c'est tout, c'est un carnaval à la base qui se transformait en spectacle. Et là, c'est un air qui est utilisé pour une danse, puisqu'il y a plusieurs.
D'accord, c'est un air de danse, à danser.
Un air de danse folklorique.
C'était une fête très célèbre à Aix.
Et il a été oui, la fête aux yeux à Aix. Oui.
Il a été récupéré dans, à la sauce folklorique, on va dire, avec les chivas aux froux.
Il y avait de tout dedans.
Et oui.
Voilà. Les, danses, les arlequins, voilà,
il y avait un peu toute la culture. Ah,
ça serait bien de faire revivre ce, hein, ce carnaval.
De, et là, on a essayé le, ça a plu beaucoup quand même de bon, montrer ça. Quoi.
Allons-y, Airs de la Festa de Dio. À tout à l'heure. Et vous êtes toujours sur la Dozenzine dans Boulégan, l'émission de musique occitane. Et on se retrouve avec messieurs Béranguier et des Leif Arondoulay et Sestian. Alors c'était les airs de la fête de Dieu, l'air de la fête de Dieu. Donc c'était un morceau très traditionnel, enfin, où ça pouvait représenter. Vous m'avez parlé des Chivas au Frou, voilà, de ce carnaval hein. Qui était la fête de Dieu à Zeiss. Oui. Et donc, ça représentait une grosse fête à l'époque.
Alors c'était vraiment un carnaval, ouais, on peut appeler ça un carnaval, qui était énorme à l'époque dans toute la ville d'Aix. La légende veut que ce soit le roi René qui qui est créé les danses. C'est qu'une légende. Hein. Sinon, après, bon, c'est un carnaval qui était composé. Chaque morceau avait un type de personnage. Les Tivofrous, les Arlequins, etc., qui représentaient tous une genre de caricature, on va dire. C'était peut-être un peu les guignols de l'époque. Par exemple, les Tivofrous, ça parodiait donc la garde, les hussards de l'époque. Ça parodiait un peu l'armée, d'une manière un peu fantaisiste. Ça a toujours été existé comme les
pantomimes. Parce qu'il faut expliquer quand même qu'ils portent des chevaux.
Des chevaux, voilà.
Ils dansent, mais ils ont autour de leur taille un cheval avec la tête devant.
Voilà, c'est une maquette de cheval qu'ils portent en tant que costume.
Voilà, portent avec
un chibao, frou, c'est faux frou. Voilà. Le truc qui dépasse.
Et avec le morceau de bois qui veut montrer l'arme. Et la chorégraphie se veut qu'ils tournent sur eux-mêmes, ils tapent du bois pour montrer les combats. C'est assez tonique comme danse.
Ça existe toujours aujourd'hui, la fête de Dieu.
Alors la fête de Dieu n'existe pas. Il y a eu quelques projets, peut-être qu'il y en aura encore, de la remettre en place dans la ville, que ce soit sous forme de carnaval ou de spectacle. Je crois que au début des années 2000, il y a un spectacle qui a été fait sur scène.
Ça s'est arrêté quand en fait?
Ah oula,
il y a longtemps.
Il y a très longtemps, je pense.
Il y a Bélé, ouais.
Je veux dire, c'est après ça a été repris, mais de manière comme nous on le prend, c'est-à-dire une danse par-ci, une danse par-là, mêlée à d'autres danses. Ça n'a pas été repris d'une manière vraiment entière, à ma connaissance du moins.
D'accord. Donc là, c'est d'un registre où vous êtes inspiré de tout ça, de tout ce milieu-là de...
Voilà, c'est une époque plus ancienne à notre époque représentative de la Provence, mais ça fait partie de notre répertoire, ça fait en musique et en danse. En musique, c'est intéressant en plus.
Alors, est-ce que vous travaillez aussi par rapport, je ne sais pas moi, puisque Farandoulers Sestian, donc les Farandoulers d'Aix, en rapport avec ce qui se passe avec la ville finalement, avec la ville contemporaine, est-ce que vous avez des rapports un peu... où est-ce que vous avez pensé à ça en fait, jouer du traditionnel, enfin jouer ce que vous faites, mais en rapport avec, je sais pas moi, avec les gens qui arrivent, est-ce que vous avez des choses à dire pour que les habitants d'Aix, puisque ça bouge beaucoup au niveau démographique ici quand même, il y a énormément d'étudiants qui sont là en été, qui représentent la moitié de la population, donc vous qui êtes un groupe d'ici, vraiment d'acquis quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont là, qui ne connaissent pas la culture provençale, ou même la musique, pour leur expliquer, pour leur dire que ça a un sens?
Alors là, c'est une bonne question.
Mais là, c'est difficile.
Philosophique, même.
C'est-à-dire, il faut qu'ils le découvrent eux-mêmes. C'est à nous de faire l'effort de le leur montrer.
Ouais.
On ne peut pas expliquer aux gens, dire voilà, c'est notre culture, voilà, c'est notre langue. Il faut qu'ils arrivent à le découvrir eux-mêmes. D'ailleurs, on a eu au Farando une Américaine qui s'est mise à venir au groupe et même on lui a prêté un costume parce que
elle voulait danser.
Elle a dansé et elle venait à la chorale et elle a chanté en provençal. Américaine.
Ça arrive souvent.
Voilà, il faut qu'on arrive à intéresser les gens par des moyens extérieurs. Alors évidemment, nos moyens ne sont pas à la hauteur de nos désirs, évidemment, point de vue financement.
Parce que peut-être que justement, peut-être qu'en restant dans une image folklore, ça reste dans le folklore, et moi, c'est pas ce que je pense, c'est un grand questionnement, ça empêche peut-être les gens de se dire qu'est-ce que cette musique.
Si on va trop loin, on va aussi se séparer de gens qui diront mais c'est pareil que le reste. C'est assez délicat. Donc,
il y a cet enracinement qui est très présent quand même.
Il faut qu'on garde bien l'enracinement. Les gens ne comprendront plus. Ils vont dire bon, ils ont plus de costumes, ils ont ou un costume un peu comme certains groupes de l'Est qui sont tous pareils. Nous, chaque costume est différent. Il y a une richesse qui les intéresse.
Mais il faut
donc
dire
il faut qu'on cherche l'originalité pour pouvoir attirer les gens vers nous. Et ça marche. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'en sort. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas provençaux.
Il y a le festival
de
Martigues.
Ils sont dans le groupe. Et qui se sont intégrés.
Ah oui, mais ça c'est très important. Heureusement.
Donc il faut arriver à les intégrer pour pouvoir aller plus loin.
Je crois qu'à Aix, il y a l'Oustaou des provinces, qui est le service de la culture, le service de la mairie, de la culture provençale. Il y a donc des personnes dans ce service qui, à l'année, travaillent pour faire le lien justement entre le vouloir des associations et leurs petits moyens et le pouvoir qu'offre la ville pour mettre en place les événements tels que les feux de la Saint-Jean. On y revient toujours. Voilà.
D'accord, très bien. Et donc, Jacques Moutet-Capoulier est présent, je l'ai rencontré l'autre jour, on a un peu discuté. Il y a beaucoup de gens qui sont présents dans le stade des Provences.
Oui. Ah oui, il y a toutes les associations.
Alors les associations
sont
fédérées.
Associations, voilà, qui sont fédérées dans ce lieu-là.
Culturel, provençal, occitan, sont d'une manière fédérées dans cette maison, ce service. Comme ça, ils créent un lien administratif et humain.
Parce que chacune a un rôle particulier finalement. Il y a ceux qui s'occupent de théâtre, l'effort artistique, ceux qui s'occupent de crèches ou d'activités provençales diverses, disons. Comme les balayes d'Auray-Grenier. Et puis, il y a les farandoulas et sestiens, donc danse, musique, langue. Puis, il y a d'autres associations, comme la Clau, occitane.
La Clau, c'est pas une... J'avais vu une voiture un jour, il y avait marqué Palotagrengo, est-ce la Clau? Est-ce que ça a un lien?
Ce sont les groupes occitans. Enfin,
oui, parce que ça mélange les deux cultures, enfin, si on peut appeler ça deux cultures, les deux mouvements, c'est-à-dire les occitans et les provençaux. C'est vraiment, ça fédère à la fois les associations et ces deux mouvements qui, des fois, selon les personnes, peuvent prêter à débat. Donc, c'est assez ça fédère pas mal quand même. Et ça crée un lien entre les associations. Les présidents se retrouvent, se connaissent. Je prends un exemple, les Venturiers qui ont organisé sont du Sud, ont fait appel au Farando pour assurer la partie folklorique, mais peuvent appeler une autre association pour, je ne sais pas moi, faire un stand sur la langue, etc. Il y a énormément de choses comme ça qui permettent à unir tout le monde, d'où on le disait.
Enfin, c'est ce qu'on essaye, hein. C'est pas toujours évident.
Uni.
D'accord, très bien. Ben, venez à l'Oustad des Provences rencontrer ces associations pour voir les auditeurs s'ils sont intéressés, pour bien voir un peu à quoi ça ressemble. Vous êtes toujours dans Boulégan, dans l'émission des musiques occitanes et de la culture hoc. Et voilà. Donc, se revendique-t-elle par de la création? Est-ce que voilà, c'est question de création?
Pour nous, elle est provençale et en même temps multiple.
Parce que moi, par exemple, je vais me sentir, quand on me dit « Oui, tu travailles, tu fais une émission sur la musique occitane. » Donc, oui, moi, je vais plutôt dire « Occitan, ça regroupe plus de choses. » Et je me sens plus de ce côté-là que d'un côté, finalement, provençal où c'est une partie de cette chose-là, finalement.
Le problème, c'est qu'on a une culture assez... Quand même, malheureusement, l'Occitanie... est vraiment une culture très riche. Je crois que on m'avait souvent dit on a une richesse, mais le problème c'est qu'on se tape tous dessus entre les Occitans, les Provençaux. Le problème c'est qu'on a un Provençal, que ce soit Rodanien, il y a le Nissard, il y a la langue d'Oc.
C'est normal, c'est des langues éclatées, ça.
Ils sont à la fois proches et lointaine pour certaines personnes. Et donc, nous, on n'arrive pas à revendiquer une identité unie.
C'est-à-dire qu'il y a les Provençaux, mais ceux qui se veulent très Provençaux, et surtout Provençaux, bon, même s'ils font partie d'une culture d'ensemble, quoique Mistral, quand même, dans le Trésor de Stiglitz-Brieg, quand il cite un mot provençal, il y a aussi une origine languedocienne, ou le mot en languedoc, ou il marque le nom gascon, le mot gascon. Donc il cite aussi parfois pour beaucoup de mots des mots qui sont d'autres régions, ce qui signifie quand même qu'il avait, bien qu'il défende la langue provençale, il avait le sentiment de cet ensemble linguistique. C'est un peu comme le ressentent les faits libres qui comprennent bien les choses.
Voilà,
après, ceux qui se replient sur l'identité stricte de la Provence, c'est bien sûr, il vaut mieux être défendre bien une langue, quelque chose qu'on connaît, quelque chose de vaste et trop complexe. Certainement, mais il faut quand même reconnaître l'unité de civilisation, l'unité de culture.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ben là, on est.
Le problème, il est là. Si on se déclare trop occitan, on oublie qu'on est provençal quand même.
Oui, mais sans oublier qu'on est provençal, parce que déjà, on a du mal à être provençal.
Si on est trop provençal, Voilà.
Déjà qu'on a du mal à être provençal, alors si on va se dire oui, nous on est provençaux, mais l'Occitanie elle est plus grosse, c'est trop complexe. C'est vrai que c'est très complexe. Des patois en Provence, il y en a, des dialectes, il y en a plein, le maritime, le rhodanien, voilà, le nissard, le toulonnais, le varois, le alpin.
On se replie sur soi-même.
On n'en sort plus. Voilà.
On en sort plus.
Et donc,
même c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
Je dirais même plus.
Ah non, mais justement, c'est pas de cette part-là qu'il faut voir les choses.
Nous, on est provençaux, on chante en provençal, on défend une culture provençale et on est avec un ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. On
d'accord,
est avec un ensemble. D'ailleurs, on a des chants qui nous viennent de là-bas, hein, des chants qu'on chante d'ailleurs.
Alors montrez-nous, là vous avez apporté un petit carnet de chants et de musique. Je vois, assez conséquent.
Bon, assez conséquent, mais justement,
vous chantez
des chants, les chants d'Amazarbo,
oui.
Bah, y a beaucoup de chants qui sont occitans, hein, et que nous utilisons. Mais évidemment, nous, ce que nous faisons à ce moment-là, nous les reprenons en provençal. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chants qui circulaient autrefois étaient entendus par des gens qui ne savaient pas toujours écrire.
Oui.
Mais quand ils l'entendaient, ils le comprenaient, même si ce n'était pas leur dialecte, leur parler ou leur langue. Mais après, ils le chantaient, eux, dans leur langue.
Mais est-ce que ce n'est pas une richesse, justement, d'avoir ce fait-là historique de,
bah, c'est un fait de civilisation.
C'est un fait de civilisation.
Les gens n'étaient pas gênés par cette diversité.
Et ça marquait les territoires aussi. Ça marquait
les territoires.
Chaque dialecte, chaque village avait son dialecte.
Voilà, même ça poussait très loin.
Et est-ce que ça, justement, ce n'est pas la chose qui est très riche? Et est-ce que, justement, moi, c'est marrant, parce
c'est
que je ne vois pas vraiment de différence entre, finalement, d'une manière d'ensemble, entre le provençal, bon, à part parce qu'il a été dicté par Mistral, etc., et les langues occitanes, la langue occitane, qui a une même base quand même, à part qu'elle soit plus espagnole à l'ouest, plus italienne à l'est, et plus montagnarde au Massif central.
Mais c'est une richesse qui...
Nous, il faut qu'on accepte une richesse multiple. Tant qu'on n'aura pas accepté ça, nous avons une langue, qui est la langue provençale. Pour moi, ce n'est pas un sous-dialecte, mais les autres, ils ont aussi une langue. Et l'ensemble, c'est une langue.
Le problème, c'est qu'il faut
voir. C'est ça. Et ça, il faut l'accepter. Il faut que nous les acceptions, des différences, tout en défendant ce que nous avons sous la main. Il vaut mieux défendre ce qu'on a sous la main que défendre quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Moi, le béarnais, bon,
le béarnais, on a un peu du mal.
Je peux comprendre, mais attendez, il faut comprendre. Hein.
Mais le problème, c'est qu'on a une richesse.
Mais on se comprend.
On se comprend, mais il y a quand même des différences assez importantes.
Alors, est-ce que ce n'était pas le travail de Mistral, ça, justement, de regrouper tous ces dialectes, de les unifier dans une langue et une conjugaison, une grammaire bien spécifique en essayant de faire quelque chose de un et indivisible. Alors que justement, dans le contexte historique, là, on peut rencontrer, bon, je dis ce que je peux savoir, mais ce qui se passe à Marseille, ce qui s'est fait, par exemple, à la même époque de Mistral, Victor Gélu, qui écrivait des chansons dans un autre contexte, qui était anarchiste et royaliste à la fois, bon, on m'a dit, mais qui parlait, surtout pas au niveau grammatical, qui parlait dans le dialecte marseillais.
Et qui écrivait en marseillais.
Et qui écrivait en marseillais, qui ressemble principalement à la graphie occitane, hein, on peut dire.
Non, je crois pas. Non, ça ressemble à la graphie... c'est une graphie très particulière, qui est une graphie, ce qu'on appelle une graphie ancienne, qui était un oral écrit. Non, parce que ça a été traduit en graphie classique, enfin graphie occitane, ou même parfois chez les faits libres. Mais en fait, lui, il ne voulait pas. Il voulait sa graphie marseillaise.
Oui, voilà.
Alors, il n'aurait pas été d'accord avec ces traductions qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Le problème est toujours présent.
Le problème est présent, mais cette graphie, il a dit, moi je ne veux pas qu'on traduise dans une autre graphie. Il a dit d'ailleurs dans les
avertissements. C'est sa graphie, c'est son écriture, c'est sa particularité. Bon, c'est historique, elle avait son contexte. Alors, est-ce que vous pensez pas...
Il avait un contexte marseillais.
Exactement, c'est le travail de Gélu. Hein, c'était... Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce problème de querelle de graphie... c'est pas quelque chose qui doit être vraiment très important. Est-ce que...
Mais on le voit, il faut voir d'un point de vue extérieur. Moi, il y a eu un débat, alors c'était au courant septembre-octobre, je crois, où sur notre langue, la reconnaissance de notre langue, où justement il faut se mettre, on est dans une micro-société entre nous, où on, pour ceux qui s'y intéressent, on connaît parfaitement les différences, qui sont des similitudes, qui c'est une richesse, etc., ce qu'on vient de dire. Le problème, c'est qu'on se met à la place du Parisien, qui lui dit, moi en Bretagne, il y a un Breton, moi en Corse, il y a le Corse, là, il y a ça, vous en Provence, vous nous gonflez un peu avec vos trucs, vous en choisissez un, et puis basta, et après, nous, on reconnaît, et puis c'est tout. Et le problème, c'est qu'on est à la fois d'un paradoxe, comme j'essaie de le dire, on a une richesse qui nous fait à la fois défaut. Il faut savoir faire reconnaître une multitude de langues et de dérivés, mais tout en essayant d'unir, ce qui est un gros chantier à mon goût, parce que après, les gens s'y perdent. Il suffit que moi, je ne sois pas né dans cette ambiance et que je me cherche une identité parce que j'adore ça. Alors d'un côté, je vais dire, tiens, je vais aller sur cette langue-là ou sur ce patois-là ou sur ce provençal, parce qu'on utilise souvent le mot patois qui est un mot horrible.
C'était
à mon
le
goût.
Mot qui était utilisé par ceux qui parlaient, les anciens parlaient.
Maintenant, c'est péjoratif.
Le patois, bon, pourquoi, oui, c'est péjoratif le patois.
Le patois, c'est plutôt péjoratif. Quand
le
même.
Patois, c'est le mot de.
Mais normalement, c'est
le mot du berger là, du coin là, qui parle mal.
Oui, c'est le patois, c'est le mot du. C'est ce qu'on désigne par d'un point de vue national parisien pour dire bon ben les patois de nos régions, de nos provinces, même ça reste des patois. Donc, justement, cette appellation.
C'est les Pacans qui parlent patois. Les Pacans. Les Pacans, d'ailleurs. Les
Pacans et les Parpagnas.
Les Pacans, d'ailleurs, le pays s'appelle le Paca. Hein.
Ah oui. Les Pacans.
Les Pacans.
Ah, vous appelez ça comme
le
ça,
les Pacans. Pacans.
D'accord. Les Pacans, justement, parce qu'en ce moment, il y a le journal Akodaki qui nous titre pour janvier-février, qui était le journal Akodaki. Nom de nom, quelle région ? Voilà, quel nom donné à la région, à la Paca. Donc, les Pacans.
Moi, je mettrais le pays des Pacans.
Le pays des Pacans.
Les paysannas, les gros. C'est ce que dit Mistral. Prenez Pacans chez Mistral, c'est le gros paysan.
Oui, voilà, c'est le Parpagnan, c'est le Pacoulin. Voilà. Il y a beaucoup de mots pour dire ça. Oui. Il y a beaucoup de mots. Ils en ont fait beaucoup de chansons, justement, pour rendre honneur à ces Parpagnans.
Ils ont choisi le mot le plus.
Et oui, non, mais c'est très. C'est rural, mais c'est ça. Elle vient de là, la langue. Le dialecte, le patois,
ça vient d'un
truc très. Très
c'est
rural.
Ce qui nous reste, parce qu'on leur crache dessus. On les accuse, mais c'est eux qui ont gardé la langue.
Aujourd'hui, elle passe par qui, la transmission de la langue ? À part par les gens qui bougent.
En Provence, il y a quand même une forte action à ce niveau-là. Il y a des écoles qui donnent des cours. Au bac, il y a l'option provençale. Je connais beaucoup de personnes. Mon père, donc Hervé, a donné des cours pour l'option en provençal. Je veux dire, il y a une transmission qui se veut. Il y a les associations comme les nôtres qui peuvent transmettre ce. Parce que moi, je connais même des jeunes qui me disent le provençal, je connais pas. Mais je leur dis, mais quand tu étais jeune, tu n'as pas entendu quelques petites chansons, ils vont me chanter un petit truc, une comptine d'enfants en provençal, même quatre mots. Mais je dis, tu commences par là. Nos expressions, il y a beaucoup de bouquins qui on dit le Marseillais, mais quand on dit oh fada ou tampégué, bouleg, l'émission, boulegan, et c'est des mots, même un gars qui n'est pas d'ici, on lui dit oh fada, et il nous ressort ça.
C'est des mots.
Port fada, mais déjà, tu as dit un mot provençal.
Tu
es provençal,
Escagasse, on se radasse contre sur une chaise.
La pile, ramasse la pile.
Voilà, il y a des gueux. Bon, après, ça fait partie de.
C'est rentré dans nos.
Mais dans justement, les gens, donc vous me dites, les gens, tu dis fada, bon, t'as dit en occitan, en provençal, c'est déjà pas mal. Est-ce que pour leur dire de continuer, parce qu'on a envie, donc du coup, que les gens qui ne connaissent pas ou qui sont de la région ou pas finalement parlent le provençal, s'intéressent à ça, est-ce que eux, leur intérêt là-dedans, il vient d'où ? Est-ce qu'il ne viendrait pas justement d'un plaisir de parler cette langue ? Et à quel nom, puisque c'est pas de leur culture, c'est une attirance, c'est une attirance pour quelque chose qui est une langue minoritaire,
Oui, après il y a un aspect rebelle quand même.
Il y a un aspect rebelle
parce qu'on se dit, la mode, c'est toujours revenir vers les trucs qui ont marché avant, les modes d'avant. On le voit pour les vêtements, pour n'importe quoi. Et il y a un mouvement, on parlait des ballets, mais il regroupe pas mal de choses. Je vois des jeunes qui ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, Aix ou notre culture, et qu'on les voit danser le ballet, à s'intéresser à notre culture. Parce qu'il y a un esprit un peu en marge maintenant des mouvements actuels qui sont très universalisés.
Moi, je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier que si on oublie la langue, il y a un danger. C'est-à-dire
pour
qui il y a un danger pour d'autres cultures, parce
qu'elle
s'amenuise, elle diminue, elle se réduit à certaines personnes qui sont dans des, qui se connaissent tous, ce qui est un peu notre cas. Ça me fait peur, ça, de voir toutes les personnes qui oublient la langue. Et par exemple, Mistral disait, là j'ai un texte dans l'Inouvé de Fougao, qui a été un texte de relevé par Xavier de Fourvière.
Voilà, Xavier de Fourvière qui écrit Le Petit Trésor.
Et qui avait, de Frédéric Mistral, une lettre d'introduction où Mistral disait, il s'agit évidemment de la pastorale de Xavier de Fourvière et surtout l'Inouvé d'Ofugao, donc des Noëls. Et il disait, « Sarah contre nature et contre l'Ubuntu de faire cantant en français d'Inost Iglesia des provinces la pastorale de Bethléem. » Ce qui signifie, ce sera contre nature et contre le bon sens de faire chanter en français dans nos églises de province la pastorale de Bethléem.
Oui.
Or, par exemple, dans certaines villes, je ne vais pas citer une ville, ce n'est pas Aix, mais c'est en province, il y a une ville où on a essayé de monter la pastorale en français.
Oui.
Il y a aussi la pastorale.
Alors, si on commence à abandonner l'oralité de la langue, parce qu'on parle de la graphie, mais la graphie, c'est important, mais c'est très important même pour développer un sens culturel. Mais si on oublie l'oralité, la langue vivante, c'est du latin.
C'est la principale chose, l'oralité de la langue.
Alors, il faut qu'on garde un minimum d'oralité. On ne peut pas revenir à la langue courante, ça, il ne faut pas non plus être utopique.
Oui, non,
mais il faut garder des espaces de langue où on puisse la conserver, la garder.
Comme tous ces mots que tu as cités tout à l'heure, des mots, on va dire, des onomatopées, pour dire dégueu, bouléguin, etc. C'est des mots qui se disent dans le langage populaire.
Oui,
c'est ces mots qu'on connaît le plus aujourd'hui.
Aussi à donner un peu vie à la langue, que les gens arrivent à faire des phrases. C'est pour ça que moi, j'ai défendu des chorales provençales.
D'accord, très bien.
Et le théâtre provençal, puisque je joue à pastoral, et j'avais écrit quelques pièces où d'ailleurs... Mon fils avait joué dedans.
Oui, parce qu'il y a aussi le théâtre, parce qu'on parle musique.
En provençal, mais moderne.
Il faut savoir que l'effort artistique, là en l'occurrence, qui est la plus vieille association aixoise, joue des pièces en provençal dans des festivals provençaux un peu de partout qui ont un succès quand même. Et la pastorale Morel, on en parlait, qui se joue au théâtre du Jeu de Pomme.
Mais en janvier uniquement.
En janvier uniquement. Elle se joue entre autres donc au théâtre du Jeu de Pomme d'Aix et elle réussit à faire quand même guichet fermé. Et pourtant, sur les moins de 500 personnes qui vont au théâtre, je ne suis pas sûr qu'il y en ait au moins 400 qui reviennent tous les ans. C'est des gens qui viennent découvrir et même s'ils ne comprennent pas tout, parce qu'on reconnaît des fois ce qui se dit. Mais ils voient un spectacle, ils sont dans une ambiance, parce qu'il y a la musique, là c'est un orchestre en l'occurrence, mais il y a la musique, les chants, le parler, et ils baignent dans une histoire, et vraiment je pense qu'ils viennent pour cette identité qu'on parlait, c'est-à-dire vraiment pour se sentir bien dans un truc qui se perd. Parce qu'il se perd malheureusement.
Et là, ce que je dis pour l'idée d'Occitanie, justement, c'est de défendre chacun là où il est, avec les moyens dont il dispose, cette partie de cette culture dans sa langue.
Ah ben il faut...
c'est la base, elle est là.
Mais la base est là, je suis entièrement d'accord avec vous.
Garder la langue. L'écriture, il y en a beaucoup qui se tapent dessus pour la graphie, pour savoir s'il faut ci, s'il faut ça, si le U, il est comme ci, s'il faut le O à la fin, s'il faut le A.
C'est pour ça que...
Si on ne parle plus la langue, ça c'est vraiment... c'est le sexe des anges qui cherche. c'est pas la peine de... C'est fini.
Il faut surtout la comprendre et la ressentir. Et trouver une beauté et une originalité à sortir quelque chose et quelque chose de profond. Donc c'est pour ça que la musique est une des choses les plus, on va dire, transcendantales.
C'est ce qui permet de passer le mieux le message.
Voilà, exactement. Voilà.
Alors surtout qu'on a une très grande richesse. Oui. Alors à l'origine, moi je parle donc d'origine après-guerre, même peut-être avant, il y a eu des livres intéressants, hein, des textes de Charles Lombrieux, véritable poète. Des livres également, des recueils de livres de Marcel Petit, qui ont baigné quand même des générations qui, heureusement, ont continué soit dans le domaine félibréen, soit dans le domaine occitan, mais qui ont continué par la suite. Et ça leur a donné peut-être un essor pour la culture. Je pense à certaines personnes, bon, je ne veux pas trop citer de noms parce que peut-être que ça serait critique, mais je peux parler, par exemple, quand même du félibre Diaz Jouvaux avec les Piau Piau.
Oui.
Des textes qui étaient même chantés.
Le félibre, comment vous l'appelez?
Les Piau Piau.
Le Piau Piau.
Les Piau Piau, c'est les oiseaux, les petits oiseaux.
Oui, mais l'écrivain. Le félibre?
Ah, c'était le félibre Ozias Jouvaux.
Ozias Jouvaux, d'accord.
Voilà. Qui avait écrit ça, mais ça c'est vu, c'est assez ancien, c'est en 1900 et quelques.
Alors, justement, c'était un petit livret pour deux chansons provençales pour adresser aux jeunes, en fait, de l'époque.
C'est des livres d'amour, Youta, mais je t'aime. Oui. Le Moulin de Laurette.
Le Moulin de Laurette.
Et... par les jeunes. D'ailleurs, je les ai fait moi-même chanter dans les écoles, puisque j'ai fait chanter dans les écoles.
De beaux objets.
Ils adoraient ça. Ils adoraient chanter ces petits gamins. Et en même temps, le provençal, ben, ça leur plaisait. Certains, ils sont revenus.
Vous avez enseigné le provençal au collège ou au lycée?
Ben, je l'ai enseigné en lycée, oui. Et puis à l'école primaire, un peu.
D'accord, très bien. Donc, à primaire, à
l'association.
À l'association.
D'accord.
Donc, les différents doulailles sestiens.
Et comment vous ressentez ça? Vous voyez ça, l'enseignement du provençal aujourd'hui à Zeiss?
Difficile dans cette... C'est assez complexe parce qu'on se trouve quand même toujours avec quelques passionnés ou quelques gens intéressants. Mais c'est très limité quand même. C'est ça qui est...
Il faut le développer.
C'est
mais
pour ça que je préfère le chant et le théâtre, où là, on peut développer.
Il y a une vie autour de ça. Très bien. Vous inspirez de qui, en fait, à part de cette de la tradition et des chants traditionnels? Est-ce que vous avez, par exemple, un réseau de d'autres groupes, justement?
Alors,
donc Laigo Vivo.
En fait, si vous voulez, on se côtoie plus ou moins, que ce soit musicien ou comment dire membre de cette culture, on se côtoie par plusieurs organismes. Il y a la Fédération folklorique méditerranéenne qui, elle, aide les associations. Donc elle est fédère, comme son nom l'indique, et elle crée des journées d'études, elle donne des cours à ceux qui ne peuvent pas en prendre, des semaines de stage, etc. Ou que ce soit danseur, musicien, ce que vous voulez, pour le parler, pour la couture, tout ce qui concerne ça, et les groupes, ils se rencontrent. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui viennent du pays d'Arles, alors que dans d'autres occasions, je pense qu'on ne se serait jamais croisés. Les musiciens, c'est important, on se côtoie énormément. C'est pas que par d'un concert, on va se croiser dans les coulisses. Là, c'est vraiment, il y a des projets communs, les gens se connaissent. Et c'est un micro-monde quand même qui entre eux. On se connaît tous, ou plus ou moins. Et si on ne connaît pas l'un, on connaît le copain de l'autre. Et ça permet de faire un échange et de cultiver notre musique, qui est assez large quand même comme répertoire.
Très bien. Ouais. Et alors, on peut vous retrouver où pour les auditeurs, vous contacter
Alors, au siège de l'association, qui est... alors, si je ne dis pas de bêtises... alors là, le trou. c'est Jules Ferry, c'est ça, à côté de l'école.
À côté de l'école Jules Ferry, oui, je ne sais pas le nom. C'est la Bastide du Père Jourdain, l'Oustau des Prouvelles.
Ah oui,
voilà,
l'Oustau des Prouvelles. C'est la Bastide
du Père Jourdain. Et au milieu du Père Jourdain.
Là, c'est le point fédéral. Après, nous avons un local. Après, les personnes se renseignent. On a un site www.farandoulaye.com.
D'accord.
Voilà. Après, pour plus de renseignements, soit nous contacter ou contacter donc. L'Oustau ou la mairie qui redirigera sur nos contacts, nos liens, nos téléphones, nos mails, tout ce qu'il faut.
Les contacts sont assez, on va dire, comme c'est un groupe assez ancien, la mairie directe peut rediriger.
On dit les farandos, la mairie.
Voilà, les farandos, la mairie.
Les
farandos, c'est marrant comme appellation.
Ça se comprend.
Oui, très bien. Alors, la prochaine fois qu'on peut vous voir dans Aix.
Alors, dans Aix, il va y avoir, on est convié à la fête mistralienne qui est, alors je dis peut-être des bêtises, mais c'est début septembre, vers le 5, je crois.
Oui,
il y a la bénédiction des Calissons qui est plus tard, dans le mois de septembre. Il y a également la bravade, mais là, c'est quand il fait froid,
en hiver.
Après, il y a le souper calendal que nous organisons tous les ans, avant Noël.
Il y a des danses dans la pastorale
morelle. Dans la pastorale morelle aussi, parce que l'effort artistique fait appel à ce groupe folklorique pour la partie danse de l'opéra. Et après, il y a les feux de la Saint-Jean, mais là... attendre l'été prochain.
Voilà. Donc on peut vous retrouver prochainement donc pour les fêtes mistraliennes et qui se déroulent généralement.
Qui se déroulent au Parc Jourdan.
Au Parc Jourdan, voilà.
Et les bénédictions de Calisson qui est vers la place des Quatre Dauphins.
D'accord.
La fontaine des Quatre Dauphins.
Très bien.
Ça, c'est la Saint-Jean de Malte.
D'accord, oui, oui. La place des Quatre Dauphins qui se situe dans le quartier Mazarin à côté du Cours Mirabeau et du musée Granet. Et sur ce, on va vous remercier de votre intervention. On vous souhaite bon courage encore de continuer encore longtemps à défendre ces chants et cette musique et cette envie de dire qu'on est bien en Provence.
Oui.
Voilà, à Aix. Voilà.
Merci de nous avoir accueillis.
On va mettre un petit morceau de Lou Sérieux, ce que vous appelez par le modernisme.
Oui, c'est une étape pour amener nos instruments, notre musique vers quelque chose de plus.
Voilà.
Plus nouveau.
Lou Sérieux, qui est un groupe originaire d'Italie, Occitane.
Oui, Occitane.
Valimaira, c'est ça, je crois.
Voilà, oui, c'est vraiment la frontière italienne.
Cuneo.
Cuneo,
c'est ça. Mais...
Voilà. Donc ça reste quand même, c'est vaste, ça reste encore chez nous, même en Italie, c'est quand même de chez nous.
Lou Sérieux, à bientôt à Benleu et grand merci.
De rien, grand merci.